Coucou les amis, bonjour, bonjour, salut tous les copains, ça y est, c'est les vacances, vous êtes en vacances? J'espère, peut-être au bord de la plage, dans les plages du Nord, on a de belles plages. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je vais vous laisser une spéciale avec Emma Goldberg qui reçoit des artistes, c'est Jennison. Alors Jennison a été choriste, des Eurythmics, elle a été choriste d'Elton John, elle a chanté avec Sheila, elle a débuté avec Sylvie Vartan. Enfin, je vous laisse avec Emma et Jennison. Bonne écoute et puis à bientôt la semaine prochaine, encore d'autres surprises. Sinon, nous, on se retrouve en septembre. Allez, bonne émission.
Ma station, ma région.
Bienvenue les amis, nous voici pour une nouvelle émission Conversation entre amis. Allons à la découverte de la fabuleuse Janis Jamison, choriste de Eurythmics et tant d'autres. Allons à la découverte de Janis Jamison.
Bonjour, c'est Emma Goldberg sur Radio Plus dans Conversation entre amis. Aujourd'hui, on va accueillir une célèbre chanteuse en France et à l'international, Janis Jamison, et je vous demande de bien écouter. Bonjour Janis, comment vas-tu?
Bonjour, I'm doing great, comment vas-tu?
Je vais très très bien, on est heureux de t'accueillir sur Radio Plus. On a plein de choses à se raconter. Moi, je connais un petit peu, beaucoup ta carrière parce que je suis fan, et j'espère que les auditeurs vont prendre autant de plaisir que j'ai à t'accueillir. Voilà.
Ah, merci.
Alors, pour commencer, d'où tu viens?
Bon, je viens de Washington, D.C., aux États-Unis. Bon, je suis née à Baltimore, mais j'ai vécu à Washington à partir de l'âge de 4 ans, 4-5 ans, jusqu'aux 22 ans, quelque chose comme ça. Et voilà.
Après, tu es venue en France.
Oui, voilà. J'avais 24 ans, je crois. Comme ça.
D'accord. Tu es arrivée par quel biais? Par le biais de la musique, par connaissance? Comment ça marche?
Je suis venue ici. D'abord, j'étais en Suisse avec un groupe de Washington qui s'appelle Today's Menu. On était à l'école ensemble, à l'université et tout ça. Et nous sommes venus en France pour le summer break, pour les vacances de l'été. Et je ne suis jamais retournée, je suis restée.
Tout simplement. Et tu as toujours fait de la musique ou tu as eu d'autres jobs?
Bon, en fait, j'étais à l'université. Je voulais être prof pour les enfants handicapés. Donc, à l'université, j'ai étudié pour les enfants handicapés.
Et d'où est venue ta passion pour la musique? Comment es-tu venue faire ce job de la musique? De l'éducation spécialisée, où tu arrives en France, à la musique, où tu commences ta carrière? Comment ça marche?
En fait, tout pour moi, au niveau de carrière, a vraiment commencé ici en France. Parce que j'ai chanté dans l'église à partir de l'âge, j'avais 4 ans que j'ai commencé. Bon, j'étais dans les petits groupes aux États-Unis, mais vraiment pendant j'étais à l'école, c'était pas quelque chose, c'était vraiment pour le plaisir. Mais j'ai pas pris ça au sérieux. C'est pas du tout mon but, du tout. Je voulais vraiment être prof pour les enfants handicapés. Et pendant cet été où je suis venue ici en France, en Suisse d'abord, c'était vraiment pour juste venir en Europe en petite tournée entre amis et de retourner pour aller à l'école, et j'ai pas fait. Donc j'ai vraiment commencé ma carrière en France, en fait. Ouais.
Et tu as commencé par chanter dans les bars, tu as chanté où? Sur scène? Tu es rentré dans les studios? Comment tu as fait?
Bon, au début, c'était, oui, les petits bars. En Suisse, c'était les petits bars. Après, on a fait une petite tournée en Norvège. C'était, ouais, les grands bars, quoi. Voilà, c'est ça. Les bars, voilà.
C'était du rock, c'était des reprises, c'était des compos.
Non, à cette époque-là, c'était des reprises, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas top 50, c'était considéré top 40, so the top 40 hits, et c'était vraiment les reprises de Donna Summer, Prince, Chic, des choses comme ça, ouais. Mm-hmm.
Et comment on arrive à devenir la choriste des Eurythmics? Comment des balles où tu fais des reprises, tu arrives aux Eurythmics au concert de Wembley en 88?
Ouh,
voilà,
ça,
il s'est passé
quoi? Il y a un long trajet, oh là là. Bon, j'ai eu la chance au début d'être la choriste de Sylvie Vartan. C'est grâce à Sylvie Vartan que je suis venue ici en France. Et à cette époque, c'était la chanteuse Debbie Davis et moi, et une cousine, qui s'appelle Jeanette Jameson. Nous sommes venus ici en France, je crois que c'était mai 80. Et Sylvie a cherché des choristes, elle a envoyé quelqu'un en Suisse pour faire une petite audition pour nous. Et la personne a envoyé, a beaucoup aimé notre voix ensemble. Et peu après, on était dans un avion pour venir en France. On a commencé à chanter avec elle parce que tout de suite, on a fait sa tournée d'été. Et après, les gens commençaient de me demander d'être leur choriste et petit à petit. Et de Sylvie, c'était Halliday, Becco, Bellevoine, Sardou, tellement de personnes. Mais en 86, j'ai eu un appel d'une dame qui s'appelle Carla, qui à l'époque, c'est elle qui gérait le studio Grand Armée à Palais de Congrès. Et elle m'appelait pour me demander si je voulais auditionner pour un groupe qui s'appelle Eurythmics. Et j'ai dit, mais à cette époque, j'ai fait le chœur pour pratiquement tout le monde avec d'autres filles. Et j'ai dit, mais Carl, si cette personne ne me connaît pas maintenant, après toutes ces années, je ne veux pas faire l'audition. Non, pas du tout. J'ai dit, mais c'est qui? Eurythmics. Elle a dit, mais Eurythmics? J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne connais pas Eurythmics. Mais en fait, c'était Eurythmics. C'est la prononciation qui m'a complètement... Et quand elle a dit oui, mais Annie Lynn, la 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 la, j'ai dit oh non, j'arrive tout de suite. mais oui, je vais faire une petite audition, tout à fait. Peu après, j'étais dans un taxi. Et j'ai tombé sur Dave Stewart au début, et il m'a proposé un cookie, un petit gâteau. Il a dit, ah, you want a cookie? Tu veux un gâteau? J'ai dit, oui, ok. J'ai mangé le cookie. Après, il a dit, mais chante quelque chose. Et je pense que j'ai chanté Summertime. Et il a dit, tu es engagé. Et ce même jour, on a enregistré quelques titres pour leur album, ça s'appelle Revenge. Voilà. Et ça a commencé par là. Et j'étais avec eux pendant 4 ans.
Très, voilà. Très, très beau studio de la Grande Armée que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Absolument! C'était, oh là là, c'était vraiment les belles époques. Oh, combien de séances j'ai fait dans ce studio, mon Dieu. Oh là là, ouais.
On y fait de très, très beaux enregistrements encore aujourd'hui, heureusement. Et il fait partie des studios qui font la joie de la musique à Paris encore aujourd'hui.
Ah, ok.
Moi, j'ai une autre question. Tu sais que j'aime Debbie Davis, évidemment, je t'en ai parlé. Et je crois que vous êtes amis dans la vie. Comment vous vous êtes connus?
En fait, quand je suis venue ici en Suisse, en Europe, c'était avec d'autres filles aux États-Unis. On était 9 ou 10 personnes. Il y avait Columbia Records à cette époque en Suisse qui m'a proposé un contrat, mais en solo. Et moi, je ne voulais pas. J'avais pas assez de confiance en moi d'être une soloiste. Donc, je me suis dit, ok, je vais retourner à Washington et je vais chercher d'autres filles. Parce que les autres voulaient repartir, ils ne voulaient pas rester. Donc, je dis, ok, je vais chercher d'autres filles. Et je rencontrais Debbie là-bas, à Washington. Quelqu'un m'a parlé d'elle. Et j'appelais ma cousine, qui était une chanteuse, vraiment une bonne chanteuse. Ça a commencé par là. Et oui, on est revenu, mais en Suisse encore, janvier 80, quelque chose comme ça. Et le reste, c'est...
C'est belle aventure.
Ah oh, oui.
Et vous êtes restés amis. En plus, Debbie Davis a chanté avec Al Jarreau pour nos auditeurs. Elle a fait aussi une très très belle carrière. Et il y avait une troisième personne qui marquait beaucoup beaucoup les studios que tu connais aussi. C'était Carole Fredericks. Comment as-tu rencontré Carole Fredericks?
En fait, je l'ai rencontrée ici en France, bien sûr. Je pense que la première fois, on faisait une séance pour Sheila. Mais je ne suis pas sûre si c'était elle ou pas, je ne sais bien plus. On s'est rencontrés dans un studio d'enregistrement. après, on a fait plein de choses ensemble après.
C'est ce que j'ai pu voir dans ma folle jeunesse où je regardais beaucoup les chanteuses. Et il y avait trois chanteuses que j'aimais particulièrement. C'était toi, c'était Debbie Davis et Carole Fredericks. Et un jour dans un reportage, je vous ai vu tous les trois dans un grand studio. Et je me suis dit, c'est magnifique, elles sont en train de vivre mon rêve. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et comment on t'a annoncé que tu allais faire avec les Eurythmics et d'autres artistes immensément connus le concert de Wembley en hommage à Mandela? C'est un moment universel, unique, 1 milliard de personnes devant leur télé. Je crois qu'il y avait 70 000 personnes dans le stade de Wembley, corrige-moi, je crois que c'était 70 000 personnes.
Ah, ou peut-être même plus, hein.
Peut-être plus.
Mais... Ouais, je crois que c'était plus. Mais c'était juste énorme quand ils m'ont proposé. D'abord, j'étais déjà partie de l'équipe de Eurythmics. Donc, quand ils ont dit non, on va faire Wembley, j'étais vraiment hors de moi. J'étais tellement contente. C'était vraiment un moment inoubliable pour moi de être backstage et voir tous ces artistes mondialement connus. Et tout, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. Ah là là, oh là là, oh là là. Non, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une très bonne expérience, ouais.
Et quand tu montes sur scène, tu arrives avec les Eurythmics, tu montes sur scène, il y a 1 milliard, tu te doutes qu'il y a des gens derrière la télé, et tous ces gens, plus de 70 000 personnes devant toi, qu'est-ce qui se passe entre vous, entre les musiciens? Comment vous le vivez à l'intérieur? Comment toi tu le vis?
Moi, j'avais pas de trac. Parce que il y avait tellement de monde, tout est sur scène et tu vois qu'une énorme masse de gens. Tu ne peux pas focaliser sur une ou deux personnes pour faire petit contact avec les yeux. Parce que c'est too much, c'est énorme. Donc, j'avais pas de trac. Je chantais, je faisais mon tour comme normal. Moi, là où j'ai le trac, c'est quand c'est des salles comme Olympia, où c'est plus entier. Voir les têtes de tout le monde, c'est ça qui me donne le trac. Mais de chanter devant des milliers de gens comme ça, on voit personne en fait. On voit une masse. Ouais, ouais, ouais.
Et tu fais ton travail finalement.
Ouais, je fais mon travail.
C'est aussi ça aussi le métier d'artiste, c'est faire partie d'une formation et être avec le groupe et travailler, faire sa part du travail pour que le show soit réussi, et on est là pour ça aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est bon, expliquer à nos auditeurs un petit peu comment les choses se passent de l'intérieur, on leur fait découvrir ton univers, ton quotidien aussi qui a été cela pendant des années. Et est-ce que tu as des petites anecdotes pendant ce concert à Wembley, dans les coulisses, avec qui tu as parlé? Est-ce que tu t'es échangé des numéros de téléphone avec des artistes connus? Parce que des fois, ça peut être l'occasion de collaborer, de faire une rencontre professionnelle.
Non, j'ai pas échangé des numéros. Non, c'était juste hello, goodbye, oh, I love your song, je t'adore, des choses comme ça. Mais pas un vrai échange. Oui, appelle-moi, voilà mon numéro. En fait, je pourrais jamais donner mon numéro à quelqu'un connu comme ça pour qu'il puisse m'appeler pour faire des cœurs et des choses comme ça.
Tu es trop timide.
Ouais.
Trop timide.
Yes, exactly. Ouais, je peux pas solliciter comme ça. Et je peux même pas me vendre. Dire, oh oui, moi j'ai fait ça, ça, ça. C'est pour ça, il n'y a pas une biographie. Parce que j'arrive pas à le soir et dire, oui, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai fait ça, ça. Ouh, j'ai du mal.
T'as fait beaucoup de choses. En plus, tu as fait énormément de choses.
Oui.
Après ce concert, j'imagine que tu as eu plein d'autres propositions. Tu as dû encore plus enchaîner les enregistrements. Tu as dû, à mon avis, avoir plein de choses. Comment ça s'est passé?
J'ai eu des propositions pour Simply Red, Roger Waters, de Pink Floyd.
Roger Waters, oui.
Alison Moyet. The Rolling Stones.
Oh yeah, les Rolling Stones.
Je suis allée, c'était en 88 ou 9. Il y a Mick Jagger qui est venu plusieurs fois de voir Eurythmics. Il cherchait des choristes et il a demandé à Dave Stewart de m'appeler pour voir si je voulais faire une audition pour lui. Et je suis allée une fois. Après, j'ai eu un comeback call to come back. Et je suis retournée à Londres.
Pour nos auditeurs, ils t'ont rappelé par téléphone et tu es allée à Londres pour traduire pour nos auditeurs.
Voilà, ok. J'ai fait une autre audition avec les pas. Il fallait faire une petite chorégraphie et tout ça. Il m'a beaucoup aimé. Après, je suis retournée en France. Et quelques jours après, je reçois un autre appel de maintenant aller à New York pour faire une audition à New York. Et là, c'est là où j'étais un peu fatiguée. J'ai dit, écoute, je ne peux pas chanter Brown Sugar, différemment que j'ai déjà chanté. Je ne peux pas faire d'autres chorégraphies. Si elle n'est pas encore décidée, maintenant, bah, je, vraiment, merci, c'était gentil. Mais je n'ai pas allé à New York. J'ai trouvé ça, j'ai déjà fait deux fois. Et d'aller encore faire un autre troisième fois, pour moi, c'était un peu trop. Donc, j'ai dit non. Mais les autres propositions que j'ai eu en 90. Et c'est là où je voulais vraiment arrêter un petit peu pour fonder une famille. Donc, j'ai dit non à plusieurs artistes que je voulais fonder une famille et voir mon enfant et tout ça. Et voilà. Donc, j'ai raté plein de choses.
C'est un choix et c'est un beau choix. Parce que je suppose que ta vie de famille, ça s'est fait. Tu as réalisé aussi un autre rêve. Tu as réalisé ton rêve. Et voilà, ça peut être aussi une chose importante dans une vie d'artiste d'avoir aussi une vie de famille. C'est important.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et ensuite, comment la chanson Joue pas, que tous les Français connaissent, est arrivée comment et en quelle année?
Joue pas, c'était en 89. Ça s'est passé, en fait, je pense que Feldman avait proposé ça à Carole, Frédéric. Mais Carole ne pouvait pas le faire. Elle venait juste signer un contrat pour Frédéric Goldman & Jones. Donc, elle m'appelait pour savoir si j'étais intéressée. Bon, j'ai dit, OK, je pars. Je repars en tournée dans quelques jours, j'ai pas beaucoup de temps. Mais après, c'est Feldman qui m'appelait. On se connaissait déjà, mais pas beaucoup. On s'est croisés des fois dans les coulisses, dans les studios et tout ça. Je l'ai rencontré en 82, en fait, fin soir. Donc, je suis allée le mois de mars pour enregistrer la chanson. Et ça qu'on entend là, c'est la première prise. Et là, ils ont gardé la première prise. Je suis partie. J'ai jamais pensé à cette chanson. Parce que, tu le sais bien, quand on fait les choses, on fait tellement de choses qui ne aboutissent pas dans les studios. J'ai tellement de choses que j'ai fait, on n'entend plus parler. Donc, pour moi, c'était encore d'autres choses. Je fais, voilà, je repars en tournée. Voilà. On a aussi fait, avant de partir, c'est vrai, on a très, très rapidement, on a fait un clip aussi. Voilà. Où est-ce que c'était après la chanson? Il y avait un clip quelque part. Dedans. Je crois qu'on a fait le clip, pas le même jour qu'enregistrement, mais peut-être quelques jours après. Vite fait, c'était Carole, Yvonne, tous mes copains dans le clip, sont dans le clip, tous les chanteurs.
Ah, génial!
Oui, il y avait Carole Frédéric, Debbie Davis, Becky Bell, Yvonne Jones.
Wouh, excellent!
ouais, oh là là! Après, je suis repartie en tournée, je n'ai même plus pensé à ça. Et en revenant le mois juin de la tournée, la chanson était déjà un tube et moi je ne savais pas. Que j'étais pas là. Et je voulais appeler un taxi pour aller quelque part. Il m'a mis sur la tente. Et c'est là où j'entends Joue pas. Et j'ai dit, mais attends, ça me dit quelque chose, mais c'est moi qui chante. Et c'est là où j'ai su que, waouh, cette chanson a vraiment marché.
Et on a adoré cette chanson. On l'adore toujours d'ailleurs, parce que chaque fois qu'on la voit sur scène, moi je suis venue te voir, vous voir dans les années 80, vous voir sur scène. J'ai regardé. Ah. Oui, je suis fan aussi. Je suis animatrice radio et fan. Et j'essaie de venir au spectacle autant que je peux. Et oui. j'avoue que quand on a cette chanson, la salle se lève, danse et on adore aussi d'ailleurs quand vous plaisantez sur scène, François et toi, vous avez toujours des petits jeux très rigolos et ça passe. Vous avez des petits pas de chorégraphie, toujours. On adore ça. Nous, le public, on adore ça. C'est ça qui est génial. Ça a presque l'air facile. J'ai dit presque.
Ah, c'est un grand moment pour moi.
Et comment les choristes David Davis et Carole Frédéric et les autres sont arrivés dans ce titre? Vous les avez appelés? C'était prévu? Comment ça s'est fait?
Oh non, parce que ils voulaient faire un peu, si tu te souviens, Bobby Womack et Womack. Il y avait cette chanson où ils sont dans le studio. Mommy, baby, of you. Ils sont dans le studio et François voulait un peu faire le même genre. Donc, je dis, OK, s'il y a des cœurs, il faut appeler mes filles. Donc,
c'est ça.
Voilà.
La vraie équipe, la vraie famille finalement musicale. Et là, vous êtes arrivé en force et le titre a connu le succès qu'on connaît. Et après, tu es reparti en tournée. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le titre est lancé. Nous, on l'achète, évidemment.
Je suis reparti en tournée et ça, c'est quelque chose qui est très, très drôle. On était à Nice avec Annie Lennox. J'étais à Nice et Annie et moi, on était assises dehors en train de boire un verre. Et il y avait deux ou trois filles qui sont en hystérie. Ah, et pour moi, c'était pour Annie, bien sûr, pas pour moi. Mais elles sont venues vers moi parce qu'elles connaissaient bien Zupa. Et Annie, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dit, ah oui, j'ai un petit tube en ce moment.
Un truc qui se balade comme ça sur les radios, voilà. Qui fait quelques millions de ventes comme ça en passant. T'imagines qu'Annie Lennox a dû être très, très surprise.
Elle était très surprise. Et moi d'ailleurs, j'étais tellement surprise. Oh là là, oui.
C'est ça qui est génial, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés finalement sur les ventes de disques, toutes les deux en même temps. Et elle, ça faisait un petit moment qu'on la connaissait, mais toi, tu débarques et ça fonctionne. En même temps, il y a un son particulier dans ce titre. Vous l'avez enregistré où?
À Musica. Musica.
D'accord.
Tu connais Musica dans le 18e arrondissement.
Oui.
Musica, ouais.
Il y a un son, il y a quelque chose. Voilà, tout simplement. Et après, donc, tu continues ou tu t'arrêtes? Tu m'as dit qu'en 90, tu vas faire une famille et tu reprends quand?
Bon, j'ai eu mon fils. J'ai chanté toujours, j'ai fait des tournées, mais en France, pas mondialement comme avec le public. Bon, j'ai resté en France quand même, j'étais sur scène enceinte, hein. J'ai pas vraiment arrêté. Mais mon fils est né en 90, j'ai continué à travailler, j'ai pas arrêté.
D'accord.
Mais juste les grandes formules comme ça, je savais que ça serait les tournées tout le temps mondialement et tout ça, et je voulais pas faire ça. Ce moment-là. Maintenant, je suis prête, mais bon.
On peut repartir.
Après cette pandémie, oui, voilà.
Ça serait pas mal, hein. Moi, j'aimerais bien te revoir dans des tournées mondiales comme ça, revoir des images comme ça sur des télés à l'étranger. Moi, je suis très, très fan. Je suis un peu la bibliothécaire de la musique.
Ouais.
Et ensuite, quels ont été les moments forts après tout ça? Comment on repart? Quel titre? Qu'est-ce que tu as choisi comme titre et comme direction musicale? Quelles ont été les propositions qu'on t'a faites?
J'ai eu pas mal de propositions. C'était un peu difficile pour moi d'aller dans une certaine direction parce que j'aime toute forme de musique. J'aime le gospel, j'aime le R&B. J'aime rock, oh my god. J'aime le gospel. J'aime ma musique, quoi. So, c'était difficile de me diriger vers un style, de me mettre dans une boîte, en fait. Mais j'étais proposée d'enregistrer un album après le succès de Zupa. J'ai fait un CD qui s'appelle Dream and Color. Et à l'époque, mon producteur, c'était Mick Lanero, qui était le producteur de Patrick Bruel, de Nougaro. Donc, il me propose des chansons. J'ai fait une ou deux qui étaient écrites par Dave Stewart, je crois. On a enregistré l'album à New York et j'avais que des grands musiciens. Il y avait David Sanborn,
Nile Rodgers, le célèbre Nile Rodgers dont on parle.
Mais ouais, Steve Gadd, le batteur Steve Gadd. J'avais que des bons musiciens qui étaient en fait amis avec Philippe Sess.
Ah oui!
Philippe Sess, il a beaucoup travaillé sur mon CD. Donc tout ça, c'était vraiment les potes de Philippe Sess. Donc c'est grâce à lui que eux, ils ont joué sur mon album et tout. Mais pas de promotion faite dessus, rien. Et malheureusement, à cette époque, j'étais dans la même maison de disques que Johnny Holiday et Texas, et le groupe Texas. Et nos albums ont sorti le même jour. Donc, bien sûr, il y avait plus d'attention faite sur l'album de Johnny et le groupe Texas que la mienne. Et la mienne a tombé vraiment dans une poubelle, quoi.
D'accord.
Ouais, voilà.
Et tu avais écrit combien de chansons sur cet album? Avec qui as-tu collaboré sur cet album dans l'écriture?
Bon, il y avait Yvonne Jones qui avait écrit des textes pour une chanson qui était écrite par un Toulousain. Il y avait deux ou trois de Dave Stewart. Moi, j'ai pas écrit, j'étais interprète.
Deux ou trois chansons de Dave Stewart, de Eurythmics sur ton album quand même, faut le dire.
Il faut que je regarde bien, je crois, oui.
C'est extraordinaire.
Ouais.
Mettre cet album qui doit être une pépite, peut-être même une pépite de l'histoire de la musique, qui est quelque part dans un placard et qu'il faudrait peut-être ressortir.
I don't know.
Et vous l'aviez enregistré où?
À New York. Il y a une chanson qui était enregistrée ici en France, mais le reste c'était à New York. Dans deux studios à New York, et je ne me souviens plus les noms, mais c'était Music Factory.
D'accord.
Music Factory. Ouais, et j'avais que des bons. Et des choristes à cette époque qui chantaient avec tout le monde. La chose qui était drôle, c'est que le jour de enregistrement à New York, il y avait Luther Vandross. Qui était en train d'enregistrer aussi.
Ah, magnifique.
Et j'avais ces choristes en fait qui faisaient les...
Ah, le va-et-vient. Le va-et-vient,
voilà,
dans les deux studios.
Voilà. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais.
Ah, c'est extraordinaire, elle travaillait sur les deux albums en même temps.
Oui, voilà.
C'est extraordinaire, ça c'est du professionnalisme.
Ah non, ils étaient pour. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore des portables à cette époque. Ouais. Mais ce qu'eux, ils ont fait, ils avaient à l'époque les beepers. Et leur beeper sonnait sans cesse.
Il fallait repartir.
Et pour les autres, c'était vraiment les choristes qui faisaient que ça. Va et vient de je ne sais pas combien de studios différents, revient, va, vient. Oh, je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable.
Ah ben, c'est un vrai talent et un vrai don d'organisation.
Ouais,
c'est ça. Et c'est ça que j'aime dans l'histoire de la musique. C'est qu'on a souvent quelquefois des personnes qui font ce métier qu'on voit pas forcément tout de suite, qu'on regarde dans les pochettes, mais qui font tellement de choses et qui enrichissent un album et puis un autre, puis en France et puis à l'étranger. C'est ça le talent. C'est ça le talent.
Ouais.
C'est toutes ces petites mains des albums et des studios qui nous permettent de construire un son, une couleur. Et ça, c'est hyper important. Qu'on te choisisse toi ou qu'on choisisse quelqu'un d'autre, ça va changer toute la couleur d'un album. Et ça, entre professionnels, nous le savons, évidemment. Et c'est ça qu'on va chercher chez des personnes comme toi et d'autres. Moi, c'est des gens comme vous qui m'avez fait rêver. Debbie Davis, toi, Carol Fredericks et tellement d'autres. Didi Bridgewater, que j'ai adoré aussi. Je suis fan de Didi Bridgewater aussi. C'est vraiment une école. C'est une école vocale, vraiment, pour toutes les jeunes générations. Est-ce que après cet album, tu es reparti sur d'autres choses avec d'autres pointures? Est-ce que tu aurais pu travailler avec Goldman comme Carol Frédéric l'a fait par exemple?
J'ai fait sa tournée. Il y avait une tournée de l'été avec Goldman en 88, je crois. Et j'étais en tournée avec lui. Et à cette époque, j'étais pas engagée comme choriste parce que il y avait Carol qui faisait le chœur, choriste. Moi, j'ai plutôt, on a fait un duo, lui et moi, là-bas.
Ah oui! Oui, à la place de Sérima.
Oui, j'adorais cette chanson. Donc, on a fait un tournée de l'été, c'était en 88, je crois.
C'est extraordinaire. Et après, tu es reparti où? Après les années 90, tu as fait quel gros projet? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tes moments forts à toi, tes souvenirs?
Bon, j'ai continué à bosser. Donc, j'étais la choriste de Catherine Lara, Becco, Bellevoine, Montagnier. Il y a tellement. Mais les choses qui m'ont énormément marqué, c'était de travailler avec Catherine Lara. Parce que musicalement, c'était génie. Et ce scène, on s'est bien amusé. J'ai fait partie de son musical.
De ses amis musicaux.
Ouais. Mais on a fait un grand spectacle, théâtre de Châtelet, sur la vie de George Sand. Et l'album s'appelait Les Romantiques.
Voilà, tout à fait. Sand et les Romantiques. C'est
voilà,
le titre.
C'est ça.
Voilà, Sand et les Romantiques. Et j'ai vu que tu avais aussi travaillé avec Elton John. Comment s'est fait la rencontre?
Bon, c'est encore grâce à Dave Stewart parce qu'il cherchait des choristes. On a fait son... Encore une fois, on a fait... Là, c'était Betty Bell et Carole. On fait les chœurs pour son album The One et la chanson pour le film L'âme fétale. Et encore une fois, tu sais, tu fais des enregistrements, tu oublies. Et Becky et moi, on est au cinéma pour voir le film avec Mel Gibson et Danny Glover. Et à la fin du film, on entend la chanson. Tu te mets, Becky, ça me dit quelque chose. Il a dit, oui, ça me dit quelque chose aussi. Oh my God, c'était nous, on lit les crédits. Après, ça a revenu, bah, mais bien sûr, on a chanté ça. On fait tellement de choses, on oublie. Vraiment, on oublie.
Oui, oui. Avec...
Lui était très... Il n'était pas flamboyant, comme on le voit. Il restait dans son coin, très timide et tout. Et voilà. Mais on avait oublié.
Tout simplement, mais c'est ça qui est génial. C'est qu'en allant bêtement voir un film, tout simplement comme tout le monde, tu découvres que tu es là, t'es devant, t'as ton nom marqué sur le grand écran et plein de gens le voient. C'est ça qui est génial. C'est la magie de la musique.
Oui, c'est ça. C'est extraordinaire.
Mais ça aussi, est-ce que tu as fait beaucoup de, aussi de musique, de chœur ou de chant pour des musiques de films aussi? Parce que je suppose que tu en as fait beaucoup.
Oui. J'ai fait il y a pas longtemps, moins d'un an, pour un film. Je sais pas si le film est sorti ou si ça sort en novembre, avec Josiane Velasco.
D'accord.
J'ai fait pas mal de musique de film pour les films avec Bruno Coulet.
Oh, extraordinaire. Alors, moi j'ai une question personnelle. Est-ce que tu as vu pendant l'enregistrement un petit monsieur avec un accent de Toulouse qui s'appelait Philippe Lafon? C'est un de mes amis, tout petit à lunettes, qui est en train de mixer la musique de Bruno Coulet. C'est son ingénieur du son.
D'accord. Mais j'étais pas mal avec Bruno Coulet. Il y avait vraiment, je savais beaucoup avec lui, parce qu'on a mal de choses avec Bruno.
Pour les jeunes chanteuses d'aujourd'hui qui ont envie de se lancer, c'est un témoignage tellement important que tu nous donnes. On a tellement envie d'en savoir plus, on a tellement envie d'apprendre. En tout cas, c'est mon cas. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et on peut se nourrir. Et puis surtout, comprendre que c'est avec le temps qu'on devient une bonne chanteuse, qu'on construit une carrière, que ça vient pas tout de suite. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut du travail, il faut de l'apprentissage, et c'est très long. Et ça demande une discipline. Ça vient pas tout cuit, c'est pas vrai.
C'est sûr. Et d'être choriste, c'est une bonne école.
Oui.
C'est une très très bonne école. Parce que, bon, d'abord, choriste, ici en France, je trouve que le terme est assez péjoratif. Parce que aux États-Unis, si vous êtes choriste, vous êtes toujours aussi chanteuse. On ne peut pas être une choriste sans être chanteuse. Mais ici, si vous êtes choriste, ici en France, si vous êtes choriste, vous n'êtes pas chanteuse. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Le fait d'être dans un studio, de faire les chœurs entre 3-4 personnes ensemble, c'est une très bonne école. Il faut beaucoup de discipline. Il faut l'oreille. Il faut être à l'écoute toujours de l'autre personne pour que ta voix ne passe pas l'autre et tout ça. Et ça, je trouve que le studio et d'être choriste, c'est une très très bonne école qui aussi te permet, comme tous, beaucoup, permet d'aussi avancer et faire une carrière comme soloiste, des choses comme ça, comme chanteuse. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord. À quel moment as-tu décidé de commencer à vouloir faire un band, parce que tu as aussi un band de soul, de gospel, t'as un groupe à toi, enfin vous êtes en groupe. Comment cette rencontre avec Mike Lester s'est faite, avec tes musiciens, comment c'est venu, sur quelle direction vous êtes parti?
Je connais Mike Lester depuis les années 80, depuis 82 je crois, parce qu'il faisait un album avec son groupe. Il avait un groupe qui s'appelle le Boogaloo Band. Il y avait Carole Frédéric et moi. Nous deux, on a fait des chœurs sur son album. Après, Mike et moi, on a resté vraiment amis. Et on avait fait un album, peut-être 2001, ça s'appelle No Comment. En 2000 ou 2001, ça s'appelle No Comment. C'était avec une petite maison de disques en Allemagne, je crois. Ça n'a pas marché du tout. Mais c'était une bonne expérience, j'adorais les chansons et tout. Et après, on a pris un petit peu de distance. Je crois que Mike, il est parti vivre dans une île quelque part, à Martin, Martinique, hein, un truc comme ça.
Ouais.
Après, il est revenu. Et dernièrement, il y a 2 ans, quand on a fait cet album, oui, il m'a demandé si je voulais encore faire quelque chose avec lui. J'ai dit oui, parce que j'adore sa musique, j'adore sa voix. J'adore comment on peut collaborer ensemble et tout. On a monté le groupe Lester Jameson. Bon, quand c'était autoproduit, bon, on n'a pas de radio. Le disque, de tout.
Donc l'album, du coup, vous l'avez enregistré où? Vous l'avez écrit à combien d'auteurs? Tu as participé à l'écriture?
Non, en fait, c'était... Il avait déjà les chansons déjà écrites. Il a pensé à ma voix. Il a dit, oui, je veux que ta voix soit sur ces chansons. Mais c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a écrit le texte et la musique. C'est vraiment un génie celui-là, il est incroyable. Ouais. On a enregistré pas loin de Paris, dans un home studio, pas loin de Paris, une petite ville, un village pas loin de Paris, un des musiciens dans le groupe. Ouais.
Comment as-tu vécu d'ailleurs, parce que tu es maintenant aujourd'hui une partie de l'histoire de la musique, quoi qu'on en pense, tu as vécu tous les grands moments de l'histoire de la musique, du concert de Wembley, les grands studios, Elton John, Nile Rodgers. Aujourd'hui tu travailles avec des chansons peut-être plus personnelles grâce à Mike Lester, où vous avez fait quelque chose ensemble. Tu as connu toutes les étapes finalement qui existent dans la musique. Comment as-tu vécu cette évolution? T'as vécu,
oui,
les grands studios à Paris, les grands studios à New York, les grands studios un,
ouais,
peu partout. Comment tu vois les choses? Alors, on a peut-être plus de moyens techniques, mais en même temps, on a moins de moyens de diffusion. Ou alors, faut se débrouiller. Comment tu le
ressens?
Ah,
là, maintenant, vraiment, une chose qui est certaine, bon, personnellement pour moi, le travail a beaucoup changé. Il y avait une époque où on était dans le studio deux ou trois séances par jour. Vraiment, ça n'arrêtait pas. Et moi, je dirais depuis peut-être les années 2000, 2002, 2003, ça a un peu changé. D'abord, c'est fini les grands studios, en fait, parce que maintenant, tout le monde... Ils ont presque les home studios. Donc on va chez quelqu'un, un pote, et on fait un album. C'est un peu comme les grands studios sont vraiment pas très très nécessaires. Pareil pour maintenant, tu n'as même pas besoin, j'ai remarqué, tu n'as même pas besoin des chœurs, des choristes en fait. Tu peux manipuler des choses, tu peux faire des choses sur
l'ordinateur.
L'ordinateur, t'as même pas besoin des voix. Tout est avec la technologie maintenant. C'est un peu triste parce que...
Une grande voix comme la tienne, quand même, ça reste une grande voix. Hein.
Ah, bon.
Faut pas tout mélanger. Des choristes quelquefois ou des bons musiciens, on en a besoin. C'est une évidence.
C'est même
en home studio, ça remplace pas le talent. Ton groupe, j'avais envie de le mettre en avant parce qu'il y a tout un travail de musicien, de composition, un vrai travail. Ça groove, ça swing, ça gospel, ça chante, ça chante, ça joue. Il y a du talent, il y a de la vie. Moi, j'ai écouté tes chansons. Je t'ai regardé en vidéo aussi. Et il y a une complicité dans ce band, il y a une homogénéité, il y a de la joie, il y a de la vie. Et comment vous le vivez sur scène, vous, de l'intérieur?
Oh là là, je m'éclate, oh my god, ooh, I love it, j'adore.
Là, on retrouve le son anglo-saxon,
l'impression
d'être au fin fond des États-Unis, et ça claque, et il y a du monde, et on a envie de monter sur les tables quand on vous écoute.
Oh, on s'amuse bien.
Il y a du jeu. Et quels ont été les thèmes abordés dans votre album de Lester Jameson, votre groupe?
C'était juste love. L'amour,
toujours l'amour universel,
yeah,
et tout dans le...
C'était pas quelque chose de recherché, quelque chose de profond, c'était love, l'amour, c'est tout.
Entre soul and rock et un besoin de s'exprimer, de faire pétiller la musique sur scène.
Oui, yeah, it was just the universe, c'était juste l'amour et le good time, le bon moment, l'amour et le bon temps.
J'invite tous les auditeurs à se jeter sur ta chaîne YouTube, de regarder toutes les vidéos parce que ces chansons, elles sont absolument délicieuses. On va en diffuser d'ailleurs 2 d'entre elles dans cette émission parce que j'ai envie de vous faire découvrir Janis Jameson dans son nouveau rôle avec son nouvel album, l'album de Lester Jameson, le groupe que vous avez ensemble. et faire découvrir le talent de tous ces musiciens, de ta voix, cette joie, cette effervescence que vous avez. Et j'ai très envie en effet de faire partager cette joie à tous nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quel est ton dernier message d'amour à nos fans, à tes fans, pour conclure cette émission?
Bon, tu sais, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, d'abord, je souhaite pour tout le monde une bonne santé. D'abord, une bonne santé, parce qu'on est en train de vivre des choses terribles. Bonne santé, soyez prudente, vigilante, aimez la vie quand même, vivre, live your life, vis ta vie comme si c'est la dernière jour, parce que le lendemain n'est pas promis, et just try to just be happy, just try to be happy, live your life, you know, simple, c'est juste simple.
vivre sa vie et être heureux, c'est ton message d'amour, et puis oui, donner beaucoup, beaucoup d'amour et de joie, et tout en musique. Évidemment, toujours. Voilà, c'était une spéciale conversation entre amis avec Janice Jamison sur Radio Plus. Nous sommes heureux de l'avoir accueillie aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres éditions de Conversation entre amis by Emma Goldberg sur Radio Plus. À bientôt Janice, bye bye.
Bye bye. Youhou.
Day, na, na, day, na, loud, na, walking around, stretching my bones, watching the crowd. I'm standing alone, things going down deep in my brain. No one can tell.
Go, 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 go.
Surprenant, hein, n'est-ce pas? Eh oui, eh oui. Bon, bah, j'ai pas beaucoup de temps. Encore d'autres surprises, hein, on reçoit du beau monde dans Titam. Et puis là, je vais vous laisser vous reposer. Allez, prenez encore un petit peu de soleil, puis rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Radio Plus, à tout moment, par téléphone, au 09 52 22 22 07. Radio Plus, par mail, sur contact@radioplus.fr.